This is the board with the registries in the Los Angeles Ballroom for October 14th, 2014, from 1300 to 1400.
Hey, hey. Hello, scribes. Can you please confirm that you're receiving audio? Type back a little confirmation for me. Thank you very much.
to the best. I swear, I like one of those. You don't, it's so empty, you still have a short walking around the street with you. With you, but just having one more discreet.
None of them. Right? Did you be one of those?
It's so pretty. It's not going to screw up.
Yeah, exactly. You can put it on your feet. You can, and you just move away too far and get to that.
Hi everybody, welcome. So are we good with the
Bonjour, bienvenue à tous. Je voulais m'assurer que l'enregistrement marche bien. Donc Keith Drazek au micro, bonjour à tous. Je suis responsable du groupe des représentants des entités commerciales et nous sommes toujours prêts à écouter ce qu'a à nous dire le Conseil d'administration. Je crois qu'il y a 4 thèmes à discuter aujourd'hui. Je pense que nous aurons ces sujets à l'écran dans un instant, mais en tout cas, je peux déjà vous les présenter. Premièrement, il y a la discussion sur les procédures d'évaluation des services de registre, donc le RSEP, et nous parlerons des deux caractères et du point de vue GAC. Deuxième point, les recommandations du groupe de travail, du conseil, du comité de nomination. Ensuite, donc, les processus relatifs aux finances et au budget pour l'année 2015, l'année fiscale 2015, ainsi que la discussion sur les revenus des enchères et également les frais pour les demandes. Et puis, nous allons également parler de l'acceptation universelle. Donc, on rajoutera un point. Et maintenant, je vais passer le micro à Steve pour des commentaires supplémentaires. Steve au micro. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue. Et bien sûr, nous pensons qu'il est important de bien utiliser le temps qui nous est imparti. Donc, nous pouvons commencer tout de suite. Merci Steve. Et donc, avant de passer en revue les 4 sujets qui sont au micro, j'aimerais remercier le conseil d'administration en ce qui concerne le processus de responsabilité de l'ICANN. Nous apprécions beaucoup le travail donc je le dis au nom du groupe des parties prenantes des opérateurs de registre. Je crois que Fadi et le personnel et Steve ont écouté la communauté en termes de processus de responsabilité et réellement nous apprécions beaucoup. Donc, je voulais simplement remercier. Alors, passons maintenant à la substance. Le premier point, c'est la question des RCEP. Donc, je vais demander à mes collègues de m'aider pour expliquer les préoccupations, les questions que nous avons sur chacun de ces sujets. Donc, Donna Austin, je vais te demander de conduire la discussion. Enfin, l'orienter, tout du moins, en ce qui concerne les deux caractères. Merci, Keith. Donc, Donna Austin au micro. Pour ce qui est du groupe des opérateurs de registre, on vous a écrit au 30 septembre pour essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de discussion sur les deux caractères. Les étiquettes de deux caractères au deuxième niveau, il y a un certain nombre d'opérateurs de registre qui ont soumis des RCEP pour justement suggérer l'utilisation de ces deux caractères. Et actuellement, la plupart de ces demandes ont exclu de manière très spécifique les extensions géographiques à deux lettres. Mais en mars de cette année, il y a eu soumission de ces demandes et pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution qui nous a été communiquée. Donc, ce qui nous préoccupe à la base, en tout cas au début de la discussion, nous nous inquiétions du fait que le GAC allait avoir un avis cette semaine, ce qui interdirait l'utilisation des deux caractères au deuxième niveau. Nous avons discuté avec le GAC pendant la semaine et nous espérons que l'avis du GAC ne sera pas en ce sens. Mais il nous reste quand même des préoccupations en ce qui concerne le processus RCEP. Il y a eu certaines surprises parmi les personnes qui, à la base, avaient soumis les RCEP. comme quoi, même s'il n'y avait pas de problème de sécurité, de stabilité ou de compétition, de concurrence, il y aurait un changement au contrat. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Nous comprenons qu'il y a la période de commentaires, le calendrier. Nous savons que le personnel a résumé ses RCEP. Les recommandations ont été communiquées au conseil d'administration. Nous avons parlé avec le personnel ce matin de ce point et la recommandation au conseil, c'était en fait d'attendre la décision du GAC là-dessus. Mais nous aimerions avoir des commentaires là-dessus parce qu'on souhaiterait avoir une résolution assez rapidement sur cette question, parce que ça fait déjà un certain nombre de mois que la question a été soulevée. Je sais que c'est difficile de faire des hypothèses, mais il faut bien comprendre comment le NGPC fera l'analyse. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a la relation contractuelle avec l'ICANN, que nous avons avec l'ICANN. Le GAC n'est pas parti dans ce contrat, donc nous aimerions savoir pour l'avenir, si ces avis GAC, effectivement, ont lieu par rapport à cette relation contractuelle, quel impact cela aura sur les changements éventuels apportés à l'accord de registre. Donc ça, c'est la première chose en termes des deux caractères. Et bien sûr, pour ce qui est des RCEP par eux-mêmes, en eux-mêmes, il y a eu des RCEP qui excluent certaines extensions. Donc ça, c'est la première partie de la discussion que j'aimerais qu'on aborde. Merci, Donna. Ensuite, il y a Chris. Si vous voulez parler, levez la main, s'il vous plaît. Chris Despin, au micro. Merci, Chris. Keith, pardon. Alors, en termes des deux caractères, les extensions à deux caractères, il faut faire une distinction dans les applications entre les extensions géographiques existantes et la libération de toutes les extensions à deux caractères. Bien sûr, l'extension géographique doit être protégée. Donc, il est possible d'avoir un nouveau pays demain qui souhaite avoir une extension géographique et qui n'existait pas avant. Donc là, on a de toute évidence un problème. Ce qui existe, donc y a également, je ne me souviens pas également quelle a été la sensibilisation qui a été faite dans la communauté CCTLD là-dessus, mais je pense qu'il y a une certaine confusion. La possibilité que EU point quelque chose, ça pourrait par exemple être l'Australie. En fait, ce n'est pas l'Australie. Je ne sais pas, j'invente quelque chose là, mais je ne sais pas si il y a une sensibilisation qui est faite là-dessus. Si vous souhaitez participer, levez la main, s'il vous plaît. Alors, Akram Atala, au micro. Alors, j'aimerais clarifier un point. Les extensions à deux caractères ne sont pas traitées par le NGPC parce que les RCEP traitent des questions de contrat. Et donc, c'est quelque chose qui dépend du conseil d'administration. Donc, ce n'est pas une question de candidature. C'est une question d'opérateur de registre. Donc, c'est le conseil d'administration qui s'en occupe. Il y existe une proposition au conseil d'administration comme quoi on accepterait les deux lettres. Qu'on approuve tout sauf les deux lettres. Il y a eu une réunion. Nous espérons que au cours de la journée, nous allons pouvoir clarifier ce point au GAC. Nous essayons d'avancer aussi rapidement que possible. Et si vous avez des points de vue là-dessus, donc faites-nous en part. Merci, Akram. Edmond au micro. Edmond Chang. J'aimerais confirmer le une chose. Et puis, j'aimerais aussi élargir la discussion. Donc, de toute évidence, la question spécifique des deux caractères est un point important, mais d'une manière générale, les processus, l'ampleur du RCEP et les paramètres pour les RCEP, c'est vraiment une chose importante. Et donc, j'aimerais donner un autre exemple. À Tokyo, ce qui me préoccupait beaucoup, c'est que le personnel du GDD pensait que s'il y avait un changement dans les points de code, dans le tableau IDN, eh bien, il y avait nécessité d'un RCEP. Et donc, ça, pour moi, cela m'inquiète beaucoup. Et je pense que Ram, lui aussi, s'en inquiéterait parce que nous essayons de nous assurer que tout le monde utilise le même tableau de langue, quels que soient les TLD. Et donc, nous demandons à la base si, par exemple, il y a un tableau chinois, eh bien, est-ce que ce tableau chinois demanderait aux centaines d'opérateurs de registre d'avoir un changement de point de code? Je crois que ça n'a aucun sens et cela indique un petit peu certaines des démarches, certains des processus qui existent actuellement pour les RCEP. Et je crois qu'un peu plus tôt dans la journée, le personnel a dit, et je pense que je paraphrase, que leur approche était ultra conservatrice. Et je crois que ce n'est pas quelque chose qui, à notre avis, est approprié. Peut-être qu'il voudrait être plutôt raisonnable en termes d'approche. Merci, Edmund G. Ching. Et ensuite, Ram. Merci, Keith Chin Chattare. Alors, j'aimerais clarifier quelque chose. Akram, vous avez parlé d'une proposition qui permet d'accepter tout sauf les deux caractères. Est-ce que c'est quelque chose qui va dépendre d'un avis? Dans quel délai est-ce que cette proposition va être avancée? Parce que cela m'inquiète un petit peu. Akram au micro. Nous avons reçu une lettre du GAC qui disait à la base qu'il ne leur reste uniquement des soucis. Il leur reste uniquement des soucis avec les codes à deux lettres. Donc on peut utiliser une lettre, un nombre, ou alors deux nombres. Donc, ce que nous avons proposé au conseil d'administration, c'est de permettre à certains des RCEP qui existent, qui attendent que les choses se produisent, d'avancer, d'approuver tout ce qui est à deux caractères, mais pas les deux lettres. Donc, de suivre en fait la recommandation qui nous a été faite par le GAC. Mais comme je le disais aujourd'hui, il y aura une autre réunion avec le GAC et si on peut justement voir un petit peu plus avec eux, eh bien on pourra avancer. Ram. Merci. Donc, Ram au micro. Edmund a dit « je m'inquiète ». Moi, je dirais plutôt que c'est j'ai peur. Et j'en ai beaucoup parlé au sein du conseil d'administration ainsi qu'au personnel et ils m'ont écouté. Le processus actuel tel qu'il est, si on le laisse tel quel, en fait, comporte un risque parce qu'il y a il peut y avoir un nombre incalculable de bureaux, d'opérateurs de registre qui vont soumettre des demandes pour quelque chose qui a déjà été approuvé dans une forme ou dans une autre. Donc, il y a un réel besoin de rationaliser la mise en application. Ce que je suggère, c'est de demander au personnel de trouver des idées du côté de la mise en application. Donc, d'avoir une proposition sur laquelle on pourrait voter de manière collaborative afin de conserver l'esprit de base des RCEP tout en assurant que la composante bon sens demeure. Merci, Ram. Et je dois dire que Jordan est dans la file d'attente, mais pendant la réunion de ce matin entre le GDD et Arkham et son équipe, je crois que tous nous sommes mis d'accord pour dire qu'il fallait que nous travaillions ensemble là-dessus. Et peut-être que le RCEP n'est pas l'outil approprié pour tout ce qui actuellement passe par ce processus RCEP. Peut-être qu'il serait utile d'identifier d'autres mécanismes qui permettent de s'occuper de certaines questions. Donc, je voulais simplement noter le fait que, avec le personnel, nous avons eu une discussion productive pour voir un petit peu ce que nous pouvons faire en termes d'amélioration. Mais je crois que d'une manière générale, cela informera notre discussion par rapport à certaines des préoccupations que nous avons. Jordan.
Jordan au micro. Oui, Jordan, pardon, Buchanan. Oui, merci, Keith. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, je pense qu'il est important d'éviter d'utiliser le RCEP comme ça n'est pas le bon outil à utiliser pour l'activité à accomplir. Les RCEP ont été conçus pour revoir les services de registre, pour voir s'il y avait des menaces en termes de sécurité et stabilité. Donc, par exemple, s'il y a un service de registre japonais et que je veux légèrement le modifier, que je veux utiliser le processus RCEP, alors, comme Ram l'a dit, cela devient un petit peu, cela revient à nier un petit peu la menace. Et ensuite, il est impossible de travailler parce qu'il y a trop de volume. Et l'autre aspect, c'est la prévisibilité du point de vue des opérateurs par rapport à la compréhension de la manière dont fonctionne ce processus. Tout cela a totalement échoué en raison justement du volume que représente ce processus. Donc il y a des préoccupations légitimes par rapport aux questions liées à la sécurité et à la stabilité, mais peut-être que, je ne sais pas, il pourrait y avoir un processus de révision de l'IANA, mais pas en utilisant ce processus RCEP qui est assez lourd. Ensuite, par rapport au fait de travailler ensemble, je pense qu'il serait extrêmement utile que le conseil d'administration nous offre une certaine orientation pour traiter ce dont a parlé Akram, c'est-à-dire avoir une certaine souplesse pour que l'ICANN et les opérateurs de registre puissent utiliser cet outil parfois, mais pas pour tous les changements possibles auxquels les opérateurs de registre font face. Parce que c'est quelque chose de très mauvais pour le personnel et pour les opérateurs de registre. Donc j'espère que le personnel va pouvoir nous proposer quelques procédures ou peut-être des conseils pour mettre en place une certaine souplesse. Et également des engagements vis-à-vis de la pertinence de RCEP. Merci Jordan. Keith Drazek au micro. J'ai Bruce sur ma liste, puis John. Bruce Tonkin au micro. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Keith. Mais en fait, ça s'adresse aux nouveaux services, aux véritables nouveaux services qui ont des problèmes en termes de sécurité et stabilité. Or, ce dont vous parlez, c'est surtout des questions liées au nommage. Donc, qu'il y ait une coopération, effectivement, c'est c'est important. Et il faut avoir la bonne méthode pour régler ce type de problème. Merci, Bruce. John Levitt au micro. Très brièvement, j'espère plutôt que les recommandations au conseil d'administration, ce n'est pas simplement que les deux caractères soient approuvés et c'est tout. mais que le GAC le prenne en considération. Parce que ce que nous avons demandé, c'est que ces deux caractères soient approuvés en mars. Et si on attend encore, il se sera écoulé presque un an pour obtenir cette approbation. Donc, il faut donner une certaine assurance aux opérateurs de registre. Il s'agit d'une question de contrat et non pas de politique. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème pour le GAP dans ce processus pour obtenir l'avis. Mais si on n'obtient pas d'avis, nous attendons une approbation des deux caractères à la fin de cette réunion pour ne pas attendre encore plus longtemps. Keith Strasek, merci John. Je n'ai plus personne sur ma liste d'intervenants. Si vous souhaitez intervenir, levez la main. Mais sinon, nous allons nous en tenir là sur ce point à l'ordre du jour. Prévisibilité, opportunité, proportionnalité et s'assurer que nous disposons du bon outil pour accomplir la tâche qui nous incombe. Je suis sûre qu'Akram et son équipe sont en train d'essayer d'avancer. Passons aux recommandations du groupe de travail du conseil d'administration sur le comité de nomination. Ken Stubbs au micro. Merci, Kess. Je pars du principe que la proposition qui a été préparée par ce groupe de travail a été soumise à la communauté pour commentaire avant la présenter au conseil d'administration pour discussion. Donc, c'est de ce point-là de départ que je vais partir. Donc, après avoir parlé aux membres du comité de nomination, ainsi qu'aux différents membres de la GNSO, nous sommes très préoccupés par cette proposition parce que cela traite la question qui représente les problèmes du comité de nomination d'une manière qui, à vrai dire, n'a pas beaucoup de sens. D'abord, le comité de nomination. Il est dit que le comité de nomination travaillerait mieux avec plus de membres. Ensuite, cela met l'accent sur la diversité en ajoutant des membres supplémentaires au comité de nomination depuis des domaines qui ne sont pas prioritaires en termes d'opération et autres pour l'ICANN. Troisièmement, cela ne résout pas le principal problème qui existe aux yeux des membres du comité de nomination auquel j'ai parlé, à savoir le manque d'éducation et la manière dont les réunions du comité de nomination sont gérées. Je vais m'expliquer. Ayant assisté moi-même à quatre de ces réunions, lorsque les gens arrivent au comité de nomination, ce qu'on entend, c'est qu'on a besoin de nouvelles personnes de tel ou tel domaine. Et la principale responsabilité pour ce comité de nomination qui a à voir avec le conseil d'administration, c'est de présenter les meilleurs candidats, les personnes qui ont les capacités suffisantes pour occuper un poste à responsabilité à l'ICANN, qui ont une compréhension claire de l'organisation, des opérations de notre organisation. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les personnes qui faisaient partie du premier comité de nomination n'avaient pas cette compréhension, ne comprenaient pas quelle était leur mission, à savoir proposer au conseil d'administration une personne qui a une responsabilité vis-à-vis de l'ICANN et non pas une responsabilité de représenter l'organisation à laquelle ils appartiennent au sein de l'ICANN et de plaider en faveur des points de vue de cette organisation. Et je vais faire un dernier commentaire. Il y a un besoin significatif d'éduquer davantage. Ces dernières années, dans les réunions auxquelles j'ai participé, les personnes qui représentent les différentes unités constitutives s'expriment en anglais. Or, beaucoup des gens ici présents dans la salle ne sont pas anglophones. Ils savent que lorsque le débat devient un petit peu houleux, c'est difficile de suivre le débat en anglais. Donc, il faut qu'il y ait davantage de formation dans ce domaine pour les gens qui gèrent, qui modèrent les débats. Très souvent, des gens, après le vote, viennent me dire qu'ils n'ont pas voté de la bonne manière parce qu'ils n'avaient pas compris sur quoi ils devaient voter exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est que en termes de ressources, finances, ressources humaines, etc., il y a beaucoup de ces ressources qui sont utilisées au sein de l'organisation et qui sont liées aux activités liées à la GNSO. Et ça ne laisse pas forcément la possibilité aux personnes qui ont une bonne compréhension de ce domaine d'activité d'intervenir. Et dernier commentaire, j'ai été très surpris qu'ils envisagent d'amener des membres du GAC pour voter. Tous les membres du GAC à qui j'ai parlé se sont sentis très mal à l'aise par rapport à cette situation. Et ça n'a aucun sens pour moi. Qui est au micro? Merci. Ken, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette question, s'adresser aux membres du conseil d'administration? Oui, je vais intervenir là-dessus, mais peut-être que je vais laisser le soin à d'autres personnes qui ne sont pas membres du conseil d'administration d'intervenir d'abord. Oui, nous avons des commentaires. Peut-être, qui souhaite intervenir là-dessus? Bien, je vais essayer de me lancer. Je pense que, à haut niveau, les débats sur la modification de la structure et de la composition du comité de nomination par rapport au GAC et par rapport au changement de seuil des votes pour obtenir l'avis du GAC ont été vus par la communauté comme étant prématurés par rapport à d'autres discussions qu'on a pu avoir ces 15-16 derniers mois sur la structure par rapport notamment à la transition du rôle de supervision des fonctions IANA, la responsabilité de l'ICANN et autres. Donc j'ai l'impression que ces deux questions pourraient être liées ou plutôt être affectées par ces discussions. Donc voilà un petit peu ce que j'ai entendu. Peut-être que c'est prématuré de faire ces recommandations, peut-être pas prématuré pour alimenter un petit peu le débat, mais pour prendre une décision, ça, ce serait prématuré. Donc je voudrais m'en tenir là et vous demander si quelqu'un d'autre souhaite réagir, intervenir. Chuck? Merci. Keith, Chuck Gomez au micro. Pour revenir sur ce qui a été dit, j'aimerais dire que dans le rapport, on a beaucoup mis l'accent sur la parité. Mais il y a plusieurs façons de mesurer la parité. La manière dont ça a été fait dans le rapport, tel que moi je le vois, ça se fonde sur les organisations structurelles. Je pense qu'une manière beaucoup plus pertinente de mesurer la parité, ce serait de mesurer le niveau d'impact des organisations représentées au comité de nomination. Et c'est ce que je souhaitais indiquer dans mon intervention. Merci beaucoup, Georges. Georges Sadowski au micro. Merci beaucoup. Je vais commencer par votre commentaire, Kiss. Alors, d'abord, la première révision du comité de nomination qui a élaboré son rapport final a été reçu et il a été décidé que le conseil d'administration allait se réunir et voir la structure et l'organisation de ce comité de nomination. Et c'est justement ce qu'on a fait. Il y a eu des améliorations structurelles. Vous pouvez penser que c'est une bonne chose ou que c'est une mauvaise chose, mais voilà quel a été le résultat. Par rapport aux commentaires de Ken, oui, ça a été une surprise pour nous lorsque on a finalement compris que pour obtenir une bonne représentation au comité de nomination, il fallait finalement augmenter le nombre de membres. Oui, pour ma part, j'ai présidé trois réunions du comité de nomination avec 22 membres. Donc, cela n'était pas forcément très onéreux. Étant donné qu'il a été suggéré que les trois sièges alloués au GAC n'allaient probablement pas être utilisés, nous pensions qu'il s'agissait là d'une augmentation marginale. Or, l'ICANN en 2015 n'est pas la même que l'ICANN en 2002. Donc la structure actuelle du comité de nomination a à voir également avec cette évolution de la situation depuis 2002. Donc pendant ces années, l'Internet est devenu beaucoup plus adapté à la situation dans le monde entier, dans les autres régions du monde, en Amérique du Nord, dans les pays les moins développés, dans les pays de l'OCDE. Donc j'imagine que même si quelqu'un avait imaginé en 2002 à quoi allait ressembler cette organisation, on n'aurait jamais imaginé une organisation aussi vigoureuse. Par rapport à ce que vous dites, par rapport au manque d'éducation, vous dites que c'est le principal problème au sein du comité de nomination. Je sais qu'au comité de nomination, on passe beaucoup de temps pour parler des objectifs, comment allons-nous parvenir à cela, qu'est-ce que nous voulons faire exactement. Je sais que ça a été fait par d'autres présidents du comité de nomination. Le règlement dit que les meilleurs candidats devraient être présentés au conseil d'administration et crée également certaines contraintes, pas plus de 5 candidats par région ou au moins un par région, qu'il faut prendre en considération la diversité, notamment culturelle et en termes de genre. Donc nous transférons ou présentons ces candidatures. Et je pense que l'extension du comité de nomination pour inclure d'autres unités constitutives permettrait d'identifier plusieurs candidats, les meilleurs candidats. C'est une hypothèse, mais je pense que cela pourrait aider parce que vous avez parlé de l'alignement entre la structure que nous proposons et la structure des différentes organisations. Vous avez raison, ça c'est le principe d'organisation. Vous avez suggéré que peut-être les principales ressources pourraient constituer la bonne alternative. C'est votre point de vue, je ne la partage pas. Il y a certainement d'autres solutions qu'on pourrait imaginer. Mais j'aimerais dire que ce document, un document de rédaction initiale, on ne l'a pas encore renvoyé devant le conseil d'administration. Si vous n'êtes pas d'accord avec son contenu, la période de commentaires est ouverte et nous allons prendre dûment compte de ces commentaires. Si vous avez d'autres méthodes différentes pour organiser et représenter les intérêts de la communauté dans son ensemble, et si vous arrivez à nous convaincre que c'est la meilleure chose à faire, alors faites-le. Je ne sais pas si l'un des membres du comité de nomination souhaite ajouter quelque chose. Ray, Ram, Mick, Keith, merci qui sont au micro, merci beaucoup. J'ai Stéphane, Ken, autre personne qui souhaite intervenir? Oui, Stéphane, président du comité, Stéphane Van Gelder au micro. Par rapport à ce que vous dites, par rapport au fait que ces réunions ne sont pas publiques, ça n'est pas vrai. Nous avons travaillé très dur ces trois dernières années pour que ce soit de moins en moins vrai. En 2014, pour vous donner quelques exemples, l'une des choses que nous avons faites, c'est réviser le leadership et faire en sorte que ces révisions soient publiques. Nous avons fait de nos réunions et de nos processus des mécanismes aussi ouverts et publics que possible. Donc la seule chose que l'on maintient confidentielle, ce sont les données des candidats, pour des raisons évidentes. Donc nous essayons d'être aussi ouverts et transparents que possible au comité de nomination. Georges Sadowski, Stéphane a raison. Les processus sont publics. Les données concernant les candidats et le processus de sélection, et ces deux aspects sont privés. J'aimerais demander à Stéphane, voilà, voyons, Ken a fait un certain nombre de commentaires sur le comportement des comités de nomination. Je ne sais pas s'il parle du comité actuel ou de comité passé, mais j'aimerais demander à Stéphane si les gens participent aux téléconférences et aux réunions publiques du comité de nomination. Stéphane au micro, non, pas suffisamment de personnes y assistent. Et c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler. Donc la première réunion ouverte a eu lieu pendant l'année 2013. Donc c'est encore nouveau et il faut que l'on rende cela plus visible et que les gens à l'ICANN savent qu'ils peuvent assister à ces réunions. Keith Strazek au micro, merci. Bruce Tonkin au micro, oui, très brièvement par rapport à ce qui a été dit, par rapport à l'éducation et la formation des membres du comité de nomination et leur rôle. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cela? Stéphane Van Gelder au micro, oui, merci. Alors, nous avons institué, et j'étais président du comité en 2014, une formation pour les membres pour être à même de mener les entretiens avec les candidats. Donc, l'idée, c'est, comme vous l'aurez compris, les membres du comité de nomination ne sont pas forcément des professionnels dans le domaine du recrutement. Donc, ils représentent la communauté, mais ils n'ont pas forcément ces compétences. Donc l'idée, c'est d'avoir une série de séances de formation pour les aider à apprendre comment mener un entretien au candidat.
Merci. Alors, il nous reste trois personnes dans la file d'attente. Et ensuite, il ne nous reste que 20 minutes, donc il faudra passer au reste des points de discussion. Alors, Ken au micro. Deux commentaires, Ken Stubbs. Pendant des années, l'éducation du comité de nomination sur leurs obligations fiduciaires et ce qu'ils devraient chercher et expliquer à un large groupe de personnes qui ne comprenaient pas grand-chose, c'était clair au cours des questions qu'ils posaient, il faut qu'il y ait davantage d'accent mis là-dessus. Deuxièmement, beaucoup des personnes ici présentes font partie du conseil d'administration ou ont fait partie du conseil d'administration. Et donc un comité de nomination, vous le savez, a vraiment certains besoins, dont une idée très claire des compétences qui manquent ou qui sont faibles au conseil d'administration. Parce que ce qui se passe dans beaucoup de cas, le comité de nomination ne sait pas vraiment quelles sont les lacunes au conseil d'administration. Donc, il faut que le conseil nous le disent de manière à ce que nous travaillions de manière plus efficace. Si vous avez un conseil d'administration qui est faible, par exemple en administration opérationnelle et en finance, et qui, par exemple, a beaucoup de compétences technologiques, eh bien, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un scientifique au conseil, mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans les affaires. Donc, je pense que c'est un point à considérer également. Keith Drazek au micro. Nous avons Ray, et ensuite Ram, et puis George. Alors, Ray Plazac au micro. Donc, pour répondre à ce qui vient d'être dit, c'est le travail du BCG et ils le font tous les ans. D'ailleurs, ils sont en train de le faire. Donc, le BGC, c'est exactement le genre de choses dont ils s'occupent. Alors, on parlait du mandat du groupe de travail par rapport à la recommandation 10. La question, c'était de prendre en considération la taille et la composition. Et puis, il y a également la recommandation 4, selon laquelle le recrutement est quelque chose qui peut avoir un impact sur la taille et la composition. Donc, ça, c'est le mandat du groupe de travail. Il ne s'est pas occupé, ce groupe de travail, des processus ou autres. Ram et ensuite George. Ram au micro. Alors, deux choses. Premièrement, cette conversation, de toute évidence, démontre que le processus fonctionne parce qu'il y a une proposition qui a été faite et nous avons des réactions et j'espère qu'il y aura des commentaires écrits. Donc, le processus fonctionne. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne pas. Deuxième chose, j'aimerais bien savoir si les unités constitutives ont un point de vue sur, si votre groupe a un point de vue sur les délégations qui sont suggérées. Parce que ça, c'est un des changements importants qui ont été proposés. Le travail est un petit peu différent actuellement. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu quelle est la réaction spécifique par rapport à ça. Parce que ça, ça va changer la dynamique du NAMCOM, la dynamique du travail du NAMCOM. Et je crois qu'il est important de s'assurer de bien en discuter. Keith Drazek. Au micro. Je pense que nous n'aurons pas le temps de vous donner une réponse là-dessus, mais nous allons en parler plus tard et faire des commentaires directs à l'avenir. Donc, Sherine Chalabi, je voulais simplement dire que je suis d'accord par rapport à ce qu'a dit Ken. En termes de l'équilibre au sein du conseil d'administration. Et je suis d'accord qu'au NAMCOM, nous devrions faire des progrès dans ce domaine. Certes, nous pourrions nous améliorer, nous connaissons les compétences, mais il y a la question aussi de l'expérience, de l'historique, de la technologie, combien y a-t-il de personnes qui sont de la technologie, etc. Et je pense effectivement qu'il y a des progrès qui sont nécessaires en ce sens. Je suis d'accord avec Ken. George Sadowski au micro. Alors, plusieurs choses. La plupart des personnes parlent du rééquilibre, ce que j'appellerais les rééquilibres. Mais il y a aussi une question d'intérêt. Il y a des membres qui n'ont pas droit de vote et qui sont membres du comité depuis les débuts. Eh bien, je ne vois pas pourquoi ils ne votent toujours pas. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait des limites au mandat. Il y a quelqu'un qui est au NAMCOM depuis 8 NAMCOM. Et pour nous, c'est excessif. Donc, il faudrait s'occuper de cette question. Et en ce qui concerne le GAC, eh bien, vous auriez été amusé hier par la réunion du GAC parce que la première réaction, ça a été « Pourquoi est-ce que vous ne nous donnez que 3 sièges ? Nous, on en veut 5. » Et quelqu'un d'autre y a fait écho. Et ensuite, on a mentionné le fait que la nomination peut rapporter n'importe quelle nation. Et donc, de toute façon, le GAC ne fera pas partie du NAMCOM. Et enfin, je crois que c'était hier, lors de la réunion, il y avait des personnes de la GNSO qui voulaient avoir une réunion séparée de celle de 11 heures. Et quelqu'un a dit que 5 jours, c'est trop court pour faire des commentaires intelligents sur la période de commentaires. Je leur ai dit, nous allons rallonger cette période. Je ne l'ai pas encore fait. Nous allons le faire. Nous ne souhaitons pas interrompre les commentaires de manière arbitraire. Ce n'est pas une question qu'il nous faut résoudre immédiatement. Mais il faut bien la résoudre, par contre. Keith Drazek au micro. Merci à tous. Et la demande du GAC de passer de 3 à 5 ne me surprend absolument pas. C'est quelque chose qui se produit au niveau du ICG également. Merci à tous pour cette discussion. Nous passons au point suivant. Il nous reste 12 minutes et deux points à discuter. Donc le budget et les processus financiers pour le budget d'ICANN pour l'année fiscale de 2015 et ensuite la question de l'acceptation. Alors, le budget et les processus financiers de l'ICANN pour 2015. Donc, premièrement, les processus et ensuite le lancement du processus de la communauté pour ce qui est des revenus des enchères. Alors, premièrement, les processus. Alors, le processus, Chuck Gomez au micro, et le budget, donc, je vais faire ceci assez rapidement. Tout d'abord, je voudrais revenir sur un point par rapport au sujet du NOMCOM. Les opérateurs de registre ont des commentaires qui sont pratiquement finalisés, donc ils seront soumis. Deuxièmement, pour ce qui est des finances, tout d'abord, j'aimerais remercier le comité des finances, Xavier, l'équipe financière pour tout le travail qu'ils font pour produire toutes ces informations et pour l'excellente séance qui a eu lieu hier. J'aimerais également mentionner que pour ceux qui ne le savent pas, le groupe des parties prenantes a soumis 11 questions et commentaires sur le rapport des commentaires publics et nous avons reçu la réponse détaillée à ces commentaires hier. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de consulter ces réponses, mais lors de la séance financière, certaines des réponses étaient incluses hier. Donc, je voulais vous remercier pour votre réponse. Je ne vais pas passer en revue ces questions, mais j'aimerais mettre l'accent sur un point. Un point qui, en fait, a terminé notre séance de questions-réponses. Et voilà de quoi il s'agit. Donc, tant que la communauté, pas seulement les opérateurs de registre, mais tant que la communauté obtient beaucoup de détails en début de processus, et je me répète, je le sais, je l'ai déjà dit, eh bien, il sera impossible d'analyser et de commenter de manière appropriée le budget à temps pour que le conseil d'administration puisse le prendre en considération. Je sais que je me répète, je l'ai déjà dit, mais donc ce niveau de transparence est nécessaire. Comme vous le savez tous, il y a une recommandation du ATRT2 en ce sens et je sais que vous en êtes tous conscients que vous essayez de travailler dans ce sens, mais je vous le répète, je vous répète ce qu'ils ont dit, donc je ne m'attarde pas là-dessus, mais tant qu'on n'a pas cette transparence, eh bien, il n'y aura pas la responsabilité que nous souhaitons tous voir. Je m'arrête là-dessus. John Nevitt au micro. Alors, plusieurs choses. Pour la plupart d'entre vous, vous savez que les opérateurs de registre lancent le processus d'amendement du contrat. Et donc, une des choses que nous souhaitons voir, c'est lors du cycle de budget suivant, nous souhaitons voir un changement dans les frais, la structure des frais, pour que les nouveaux comme les opérateurs de registre existants soient tous influencé par ceci. Et s'il y a une question de budget, eh bien, c'est quelque chose que nous devons faire ensemble. Mais donc, ce dont vient de parler Chuck est très important dans le cadre de notre discussion, parce que plus nous avons de transparence, plus nous pourrons savoir où va notre argent. Et s'il y a des questions en termes de budget, eh bien, bon, les gens, en fait, sont incrédules quand on dit qu'il y a des problèmes de budget. Je crois qu'il est très important. Par exemple, je viens de ressortir le budget de 2009 pour l'année fiscale de 2009 et je crois qu'il représentait un tiers en termes de total, mais trois fois plus de pages, donc un tiers en termes de montant et trois fois plus d'informations. Donc c'est quand même intéressant. Donc il faut absolument qu'il y ait davantage d'informations, davantage de transparence. Et ça, c'est quelque chose qui va être considéré de manière très intense par notre groupe, parce que nous voulons savoir, en fait, ce qui se passe avec les frais. Alors, Xavier et Chris sont dans la file d'attente. Si vous souhaitez parler, levez la main. Alors, Xavier. Je vais attendre que Chris intervienne. Chris, au micro. Désolée, j'étais sortie de la salle, donc j'ai peut-être raté quelque chose, mais j'aimerais savoir, en fait, j'aimerais que vous me donniez un exemple sur quelque chose, un point où vous avez besoin de détails, de transparence, parce que j'aimerais bien savoir de quoi on parle, en fait. J'ai peut-être raté ce que vous avez dit, mais... Chuck, au micro. Bon. Tout d'abord, j'aimerais donner une réponse générale, Chris, et ensuite j'essaierai de trouver un exemple spécifique. Nous en avons donné dans notre liste de questions qui sera publiée avec les réponses de Xavier et de son équipe, celle de son équipe. Alors, pour l'instant et au cours des quelques années passées, au niveau du profil, il y avait beaucoup de détails qui étaient fournis. Il y avait un système de tâches qui était utilisé. Le problème, c'est que le niveau de profil sur les grands points est vraiment de haut niveau, donc 5 millions de dollars ou 4 millions. Et ce qui s'est passé lors du dernier cycle, c'est qu'on a sélectionné certains profils et on a donné quelques détails de projet. Cela nous a beaucoup aidés. Certaines des choses que nous cherchons à avoir, du point de vue de la GNSO en tout cas, donc à la GNSO, lorsqu'il y a une priorité, eh bien, on n'arrive pas à avoir ceci au niveau du profil. Donc il faut avoir les détails. Un exemple spécifique que je peux vous donner, le personnel a d'ailleurs répondu à nos questions. Il y a l'exemple de la responsabilité dans les fonds pour la transition Yana qui ont dû être ajoutés au budget. Et ce montant a été signalé en premier. Il était à un très haut niveau, 5, quelque chose. Maintenant, on est revenu, on a fait le détail de ce montant de manière à ce que nous puissions analyser de manière attentive exactement où est investi l'argent. Donc je ne suggère pas que nous faisions un micromanagement du budget, ce n'est pas ça, mais au moins que nous puissions le voir, l'analyser. Nous n'avons pas suffisamment d'informations au niveau des projets pour, par exemple, s'occuper des besoins de la GNSO. Nous passons à Ken et ensuite à Xavier. Ken au micro, Ken Stubbs. J'ai eu une conversation intéressante avec Xavier cette année. L'ICANN a préparé un rapport qui a utilisé comme outil pour développer une structure de frais pour les CCTLD. Et la base de ce rapport, c'est en fait ce que doit faire l'ICANN à l'avenir. Vous avez de grands domaines opérationnels au sein de l'ICANN. Il serait intéressant de savoir à quoi sont appliquées les ressources de l'ICANN en termes d'activité de la GNSO, par exemple. Alors, bien sûr, il y a certaines choses, par exemple, les coûts d'administration, bon, ce genre de choses, c'est une chose. Mais la plupart des gens doivent savoir quels sont les domaines opérationnels où est dépensé l'argent, de manière à peut-être pouvoir améliorer l'efficacité, à s'assurer que les ressources existent. Et ça, j'aimerais bien voir ceci à l'avenir de la part de l'ICANN dans les rapports. Merci beaucoup, Ken. Fadi, ensuite Xavier.
Vous décidez. Fadi au micro. J'aimerais simplement remercier Chuck pour sa perspective sur ce sujet. Et j'aimerais commencer par dire que nous sommes réellement engagés à vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour que vous sachiez où va l'argent. Et de fait, j'ai vu votre lettre et je vais la mettre en priorité dans le travail de mon équipe. Parce que si nous ne sommes pas transparents en termes de dépenses de l'argent, eh bien, vous avez vraiment un problème en termes de transparence et de responsabilité. Donc, je m'y engage. Maintenant, pour les personnes qui sont dans la salle et qui n'ont pas eu le temps de regarder notre budget, j'aimerais vous dire un petit peu ce que nous avons fait au cours des deux années passées. Nous avons pris les 4 objectifs de la société et les 16 buts, et nous avons pris tout ce que nous faisons à l'ICANN, tout, y compris la cafétéria, et nous l'avons divisé en 50 portefeuilles avec 450 projets. Tout ceci est en ligne, détaillé, vous pouvez y avoir accès. À qui appartient tel projet, quel est le statut, qu'est-ce que nous faisons. Donc, nous sommes complètement transparents. Alors, Chuck, comme vous l'avez dit, l'année dernière, il y a eu un membre qui a été assigné à chaque portefeuille. Pardon, un montant qui a été assigné à chaque portefeuille. Donc, comme Chris vous l'a dit, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Eh bien, effectivement, certains de ces portefeuilles sont très importants. Donc, il faut savoir exactement où va l'argent. Donc, cette année, nous avons pris la moitié de ces portefeuilles et nous les avons détaillés par projet. Et nous leur avons donné un montant. Alors, je sais que ça ne suffit pas, et ça ne suffit jamais, parce qu'il nous faut être très clair en termes de priorité. Quelles sont-elles? Comment est-ce que le budget est dépensé? Mais je peux vous assurer, nous nous engageons à ce que vous ayez non seulement une visibilité complète, mais également une idée très claire des dépenses que nous faisons. Et donc, nous allons nous améliorer pour l'année fiscale 2016. Nous allons être clairs et aidez-nous à décider où allouer les ressources pour mieux servir la communauté. Keith Drezek, merci beaucoup, Fadi. Nous apprécions beaucoup cette intervention. En fait, Xavier, nous allons vous passer la parole, même si nous n'avons plus de temps. Xavier au micro. Comme Fadi l'a expliqué, la quantité de détails que nous fournissons ne cesse d'augmenter. Et j'aimerais rajouter quelque chose ou corriger ce qu'a dit John. Le budget qui a été fourni l'année dernière, au mois de mai faisait 84 pages, alors qu'en 2009, c'était 44 pages. Donc, la question n'est pas le nombre de pages, mais le détail, le niveau de détail d'information. Et donc, nous divisons les informations maintenant entre 600 catégories, 600 à 800 catégories, ça c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant. Est-ce que ça suffit? Non. Comme Chuck l'a dit, dans ces 600 catégories, il y en a une qui fait 5 millions de dollars et donc il faut pouvoir la détailler davantage. Et donc ceci va continuer de devoir être amélioré pour affiner les informations, pour continuer de recevoir votre point de vue sur ce qui n'est pas suffisamment bien expliqué. Nous avons discuté justement par rapport à la question de Chuck de ce qui a été dit par les opérateurs de registre. Par exemple, la fonction de soutien est un montant cumulé. Donc, nous avons la fonction de soutien qui a donc le portefeuille et nous devons détailler cette fonction de soutien, même si c'est au niveau du portefeuille, afin de fournir davantage de visibilité et de clarté par rapport à ces informations. Donc, votre point de vue est le bienvenu. Votre groupe a fourni un certain nombre de questions et nous allons publier sur le Wiki Finance et nous allons envoyer aux autres membres de la communauté qui s'intéressent au processus ces informations aujourd'hui. Parce que je crois que vos questions intéressent tout le monde. Et j'espère que les réponses à ces questions intéresseront également tout le monde. Donc, je crois que
le processus est continu. Nous devons continuer d'affiner, d'améliorer le niveau de détail, la structure des données. Il faut bien savoir qu'à chaque fois que nous ajoutons un niveau de détail, eh bien, cela augmente de manière exponentielle la quantité de travail nécessaire pour vous fournir des informations de qualité. Lorsque nous avions 100 chiffres à vous donner dans le budget, c'était beaucoup plus facile que maintenant que nous avons à en fournir 600. Ça ne va pas dire qu'on va arrêter notre travail. Bien sûr, nous allons continuer, mais il nous faut une structure qui nous permette de le faire. Et nous allons continuer d'être plus transparents à l'avenir. Merci.
Merci, Xavier. Fadi. Fadi au micro. Oui, je crois que Chuck posait également la question de savoir quel était le coût du transition de rôle de supervision des fonctions de l'IANA, 6,9 ou 7 millions de dollars. Et si nous l'avions détaillé, si vous avez besoin que ce soit davantage détaillé ou ventilé, faites-le nous savoir. Keith Strasek au micro. Oui, merci Fadi. Je crois que Chuck a reconnu le fait que ces informations qui étaient fournies étaient très utiles, effectivement. Merci beaucoup. Nous n'avons plus beaucoup de temps, 5 minutes de retard déjà. Je veux prendre 2 minutes pour parler de l'acceptation universelle. C'est une question importante qui a concentré beaucoup notre attention. Je vais demander à Edmond de nous parler de ça très brièvement, parce que c'est une question qui revêt chaque fois plus d'importance. Et je pense que cela a un impact positif ou négatif potentiel sur la réussite du programme des nouveaux GTLD. Edmond Chung au micro. Oui, merci. J'en ai déjà parlé lors de la séance du conseil d'administration du GNSO, donc je ne vais pas beaucoup détailler. Mais effectivement, c'est une question importante, surtout par rapport aux IDN et au nouveau GTLD. Il s'agit d'une question qui est importante par rapport à la confiance des utilisateurs. 2 éléments à souligner. Est-ce que la communauté comprend réellement que l'ICANN seule ou la communauté seule ne peut pas traiter ou répondre à ce problème seule? Mais il y a des mesures concrètes que l'ICANN, de manière proactive, peut prendre. Et beaucoup de ces mesures sont incluses dans le rapport. On sait également que le personnel travaille là-dessus. Nous pensons qu'il y a encore des pièces qui manquent, mais le rapport évoque cela, le rapport du JIG. Donc ce rapport du JIG, qui a conjointement été adopté par la CCNSO et la GNSO, a été envoyé au conseil d'administration. Je suppose que ce rapport contient les principales questions importantes. Donc l'importance stratégique également de ce rapport est à souligner. Je me souviens qu'une fois Fadi a dit que les gouvernements du monde entier étaient préoccupés par cela et que pour nous rendre au gouvernement, effectivement, l'une des manières efficaces que nous avons, c'est par exemple la mise en œuvre efficace de l'IPv6. Lorsque les gouvernements cherchent des fournisseurs, ils demandent que l'IPv6 soit mis en œuvre et appliqué. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut renvoyer au gouvernement au niveau stratégique. Lorsque Fadi, Steve ou d'autres parlent aux gens pour dire, voilà, à l'avenir, ce doit être quelque chose qui est particulièrement important. Donc, prenez bien en considération le rapport de la JIG et examinez-le avec soin. Ram Mohan, au micro. Merci beaucoup. Le conseil d'administration est en train de prendre très au sérieux ce rapport. Il y a actuellement un point particulier à l'ordre du jour qui se penche là-dessus. Nous allons nous y concentrer. Nous allons l'analyser. Et par rapport à la série de solutions présentées, c'est une excellente chose d'avoir autant d'idées proposées. Je ne sais pas si dans un avenir immédiat ou pas, mais sachez que c'est un domaine dans lequel que le conseil d'administration prend en considération l'urgence et l'importance de cette question. Ray Plazac au micro. Merci beaucoup, Keith. D'abord, j'aimerais dire que je suis d'accord avec ce qu'a dit Ram par rapport à ce qu'a dit Edmond sur l'IPv6. Et c'est un petit peu la même situation qu'avant, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour trouver les bonnes personnes pour mettre l'accent là-dessus. Et l'une des choses qu'on a fait lorsque j'étais président du RIR, c'était justement aller frapper à la porte des gouvernements et leur dire de faire cela, que ça dépendait d'eux. Et je me souviens que je me suis adressée au conseil d'administration de l'ICANN pour leur dire qu'ils avaient un rôle à jouer là-dedans. Et l'ICANN a une excellente tribune pour le faire. Dans le domaine de la gouvernance Internet, c'est également très facile de parler de l'acceptation universelle et tout cela. Donc, il s'agit de plaider pour cela, pour que ça arrive. Également, parler aux bonnes personnes. L'ICANN devrait faire ce genre d'activité également, activité de sensibilisation. Donc, là encore, ça revient au même, trouver les bonnes personnes, leur poser les bonnes questions. Et à un niveau en dessous, avoir des relations avec les opérateurs, fournisseurs, etc. pour promouvoir les GTLD et leur apprendre à les utiliser. Keith Strasek au micro, merci beaucoup. Je suis sûre que le groupe des parties prenantes des opérateurs de registre est tout à fait disposé à travailler avec le conseil d'administration et son personnel pour mieux travailler au service de la communauté. Excusez-nous du retard, 10 minutes de retard, et merci à tous de votre attention.
Thanks. Very well done. Very specific.
So, we'll get to that another time, right? I think we've actually heard from, you know, there's a plan. Marrakesh is the target for conversation.
Thank you.
So,
thanks, Steve. I don't have to say it again. But I would like inputs on ideas so we can formulate.
Thank you very much.
Sounds good. Thank you.
Thank you.
Appreciate it.
I think we just want to say great, you know, you made a great segue in terms of the art or asset art, and just to insert in the concept of this, probably not using the asset.
Right. Yeah, not always the right tool. Right? Okay, good. Thanks. Thank you, Jake. Marcus, how are you, sir?
It's great to see you.
How's
great
everything?
I'm
good, good.
Trying to learn.
Yeah, I know. Good. Right. Thanks.
I just want to let you know that I do accept you, so you're going to wish me something about
that. Thank you. Good. Likewise. Right back at you.
But no, I remember going up to the hill.
Oh, I'm sure, yeah.
And I was talking to an idea.
Yeah. Really important. Yes, exactly right. Get to GSA, make them force it on all the contractors, right?
Yeah. You're right. I mean, we seriously did this thing. Of course, what the government did, like, 60 years.
Right, right, yeah. Exactly.
And then the first thing that we did at Aaron is we went and negotiated the IPv6 allocation of the DOD, the contract and everything else. Yeah. And we took it and went to everybody else and said, the DOD signed this.
Get on board, right?
Yes. Very good.
Sitting there, he's sort of there, I think. Yeah, probably at the end of this cord. Yeah, around there it's fine. That's where most other people have been sitting. Steve's sitting here, and then other than that, every other seat's taken. It's up to you.
Have your new board members been seated yet, or is that later this week?
That happens after the AGM, which is
okay,
on Thursday.
So that's right. Right.
Yeah.
Fine.
So, yeah, Bill is still... You got to take off the shirt, suit, and tie.
Dude,
the formal attire.
As your chair.
Do you want James and I as speakers here?
Yeah, sure. I don't mind. Yeah, we can.
Who are you guys seeing next?
Where is James?
Who are you going to send on Friday to the
Jennifer.
Brilliant.
It's already done. It's all sort of there.
Level of secretarial support and administrative stuff that you guys have. So that's difficult for me.
What the hell are you talking about?
Okay, so.
No, so Jennifer's the one. James.
I guess
I pass out maybe my mom close to the ground. I am literally sweating.
Hi.
Good.
Hurry up. Did you want bodies up here as a show of force?
What if you want to do it like? I think Parker's somewhere around here. Mm-hmm. This one's okay.
Well, Jenner, why don't you sit here next to the kid?
That was something in LA. Yeah,
well, actually, three. We've got LEA, Budgers, and this one.
I'll cut that one short.
Yeah.
Yeah,
we're 5 minutes late. 6 minutes.
I'm ready.
All right.
Yeah, no, sorry.
What's okay.